Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Horeh Chemin Tovim et Shanim Ne'imim. Nous poursuivons notre étude du livre fabuleux, lumineux, le Zera Shimshon, du maître illustre Rabbeinu Shimshon Haïm Nahmani, de mémoire bénite, que son mérite nous accompagne. Ce livre, cette lecture, cette étude est une ségoula, un remède qui s'est. Elle est qualifiée d'étude qui apporte à chacun le salut et la délivrance. Nous dirons les akdashot à la fin du shiur, pour la refouah chez les mâles et ilu nishmat, pour la délivrance de tous ceux qui sont en attente d'une délivrance quelconque. Akadosh Baruch Hu leur octroie ce qu'ils attendent de sa main large et grande de bonté. Nous sommes parashat Vayera au Darush Dalet. Il est dit qu'Avram Avinu a installé les anges sous l'arbre et il va s'occuper d'eux et il va leur donner à manger. Le pasuk dit Ve'hu omed aleihem tachat ha'etz vayochelu. Il se tint debout au-dessus d'eux sous l'arbre et eux ils mangèrent. C'est-à-dire que Avraham se tient debout, les anges sont installés à sa table sous l'ombre du feuillage. Et il fait le service. Eux sont dans l'obligation de manger. Vayochelu, c'est-à-dire que comme si qu'ils n'ont pas le choix. La question se pose. Est-ce que les anges mangent? Rashi dit, au nom de Rabotenu, des maîtres, ils font comme si qu'ils mangent. Nir'u kemo she'achlu, dit Rashi. C'est une Gemara dans Baba Metzia. La Gemara rapporte l'enseignement de Rabbi Tenhoum. Un homme ne doit jamais changer la pratique du lieu où il se trouve. Voilà que Moshe est monté dans les cieux, et c'est alors qu'il s'est abstenu de se nourrir de pain. Les anges célestes ne font eux-mêmes, sont descendus en ce bas monde et ont consommé du pain. La preuve, c'est chez Abraham. Alors Agmara, elle objecte, est-il pensable de dire qu'ils mangèrent? Comment c'est possible que les anges mangent? Alors, il faut dire qu'ils donnèrent l'impression de boire et de manger. C'est une Gemara dans Bama Metzia, à la page 86b. Les Tosafot citent le Seder Eliyahu Rabba. Il est dit, ne dis pas comme celui qui affirme qu'ils firent semblant de manger et de boire. Mais ils mangèrent et ils burent vraiment. Comment? Pour honorer, pour le kavod de Avraham. Et les Tosafot rajoutent, le Eliyahu Rabba est en désaccord avec notre Gemara. C'est évident. Il est évident que ces deux enseignements ne s'accordent pas. Quel besoin ont les Tosafot de le préciser? Cette conclusion est donc a priori superflue. C'est-à-dire que notre Gemara, la Gemara Baba Metzia a dit qu'ils ont fait semblant de manger. Le Eliyahu Rabba a dit qu'ils ont vraiment, ne dit pas qu'ils ont fait semblant, mais ils ont vraiment mangé. Donc c'est la question des Tosafot. Et le Tosafot, il conclut qu'il y a une mahloquette, que le Eliyahu Rabba n'est pas d'accord avec la Gemara. A priori, cette conclusion est superflue, on le comprend de nous-mêmes. Le Rav, Rabbeinu Shimshon, se propose de répondre à cette question en développant la thèse que le désaccord entre la Gemara et le Seder Eliyahu Rabba se situe sur deux plans. Alors il commence son développement. La Mishnah dit, là où on a l'habitude de travailler la veille de Pessah, jusqu'à la mi-journée, on peut le faire. Là où l'habitude est de ne pas travailler, il est interdit de le faire. Celui qui va d'un lieu à l'autre se doit d'appliquer les interdits des deux endroits, de celui qui l'a quitté comme de celui qui l'accueille. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on sait que la veille de Pessah, on ne travaille pas. Alors on peut travailler jusqu'à Hatzot, mais pas plus. Alors il y a des endroits où on a le minhag de travailler, des endroits où on n'a pas le minhag de travailler. Le service, pourquoi? Le sacrifice de Korban Pessah, l'agneau pascal, doit se faire la veille de Pessah à partir de la mi-journée. Hatzot ayom. De Hatzot jusqu'au coucher du soleil. Mais il ne faut pas finir à la fin parce que il y a d'autres korbanot, on a d'autres préparatifs à faire. Pour certes 13 ans, il est interdit de travailler toute l'après-midi, en effet. Pour celui qui offrait le sacrifice ce jour-là, chaque fois qu'on offre un sacrifice, c'est un jour de fête pour celui qui l'offre. Donc ici, c'est un jour de fête pour celui qui doit apporter le sacrifice. Donc il ne peut pas aller vaquer à ses occupations et à travailler, puisque c'est un jour de fête. Alors certaines villes avaient l'habitude de chômer aussi la matinée, car chacun devait brûler son hametz, puis préparer les matzot et tout le nécessaire de la fête, de sorte que toute la journée était chômée. Celui qui quitte une ville où on ne travaille pas la matinée pour aller dans une ville où le travail est permis, où on travaille, il devra se comporter comme les habitudes de sa ville d'où il vient. De même, s'il quitte une ville où le travail est autorisé la matinée pour aller là où le travail est interdit, on n'a pas l'habitude de travailler, alors aussi il devra se comporter comme cette habitude. Alors pour lui, c'est interdit de travailler. Ça, c'est Gemara dans Psahim à la page 50a. Les rabbins, les bêtes soulèvent une question. Est-ce que celui dont l'habitude est de travailler et qui se trouve dans une ville où la matinée est chômée doit adopter cette attitude et ne peut effectuer un travail? Cela est dit en public uniquement ou aussi en privé? Est-ce que cette minhag d'adopter le minhag que l'on a de la ville où on va, alors c'est dit par rapport aux gens qui nous observent ou même si on est seul dans la maison? Il faut se comporter en conformité avec les us et coutumes du lieu où on se trouve pour ne pas faire de provocation et ne pas froisser son entourage. Mais si cet homme est dans son intimité et que personne ne le voit, peut-il alors agir comme ses habitudes? Alors s'il vient d'une ville où il travaille et il va dans une ville où on ne travaille pas, alors s'il est, alors il ne doit pas travailler en public. Alors est-ce que l'interdit de travailler est aussi s'applique aussi quand il est tout seul chez lui dans la chambre d'hôtel ou chez lui à la maison, personne ne le voit? Le Rhin, à la page 16 et 17 du RIF, dit que l'interdit est uniquement en public. Il serait donc autorisé d'effectuer un travail dans la discrétion de son intérieur. Le Tosafot 52a dans Psahim pense que cet interdit doit aussi s'appliquer dans un lieu privé, car il n'est pas possible de réaliser un travail sans que cela se sache. Bien, de toute façon, les gens ils vont savoir que tu as travaillé. Revenons à présent à l'enseignement de Rabbi Tanhum. Que dit-il? Il ne faut pas agir en opposition avec les pratiques du lieu où on se trouve. Il apprend cela de l'attitude des anges à la table de Abraham. Si nous disons qu'en fait ils ont donné l'impression de manger uniquement, il en va de même pour ceux que nous déduisons l'interdit de changer les pratiques et les habitudes. Alors ils ont fait semblant parce que c'est en public, en réalité ils n'ont pas mangé, mais ils ont fait semblant. Donc celui qui, il s'agirait alors de se soumettre aux habitudes de cet endroit uniquement si on n'a pas d'autre solution. Mais s'il nous est possible de faire autrement sans que personne ne s'en aperçoive, il n'y aurait aucune obligation de se soumettre aux us et aux coutumes et aux pratiques de ce lieu. Comme si que les anges eux-mêmes n'ont pas réellement mangé, mais uniquement donné le change, et en fait comme s'ils avaient mangé. Il y aurait alors une différence entre effectuer un travail dans l'intimité, betsina, ou bien sans que ça se sache, ou bien en public. Alors en public, ce serait interdit, et en privé, betsina, ce serait mouta. Ce serait permis. Mais si nous choisissons l'autre option, celle de dire que les anges ont réellement mangé à la table d'Abraham, bien qu'ils auraient très bien pu faire semblant de donner le change, selon cet avis, il serait absolument illicite d'effectuer un travail, et cela même en privé. C'est à ce sujet que les Tosafot ont précisé que le Seder Eliyahu Rabbin n'est pas d'accord avec notre Gemara. De sorte que l'opinion de la Gemara est de dire qu'ils ont fait semblant de manger, alors que celui de Seder Eliyahu Rabbin est qu'ils ont réellement mangé. Et une deuxième controverse qui concerne celui qui vient d'une ville où on travaille la veille de Pessah dans une ville où on ne travaille pas. Nous avons dit qu'il doit se soumettre aux habitudes du lieu où il se trouve. Est-il autorisé de travailler en privé? Selon la Gemara, non. Mais selon le rabbin, il peut le faire. C'est le deuxième point que les Tosafot soulignent. C'est ça ce que vient de dire les Tosafot, que Eliyahu Rabbin n'est pas d'accord avec la Gemara. Alors, le Rav propose une autre voie pour justifier la précision que les Tosafot ont jugé bon de rajouter. Il ajoute un hidouche. Quand la Gemara objecte à Rabbi Tanhum, comment peux-tu dire que les anges ont vraiment mangé? Est-ce dans leur nature? Elle répond alors qu'ils ont fait comme s'ils mangeaient. Cette réponse n'est pas celle de Rabbi Tanhum, mais celle du Chacham, qui a soulevé l'objection. Rabbi Tanhum n'a pas changé son opinion. Pour lui, les anges ont vraiment mangé, de sorte que son avis concorde avec celui de Eliyahu Rabba, de Seder Eliyahu Rabba. C'est à cela que les Tosafot font allusion, quand ils disent que le Seder Eliyahu Rabba est en désaccord avec la réponse de la Gemara, uniquement avec la réponse de la Gemara, mais pas avec la première proposition de Rabbi Tanhum qui dit qu'ils ont vraiment mangé. Chidouche extraordinaire. Donc on voit ici, le Gaonou du Rav, il fait un hilouk, il est médaillé avec la Shona Tosafot pour dire qu'il y a que la réponse de la Gemara est une réponse d'un chacham, mais ce n'est pas, elle ne vient pas, ça ne veut pas dire que Rabbi Tanhum, il vient adopter cette réponse. Le Midrash Yalkut, sur notre verset, dit, celui qui dit que les anges n'ont pas mangé n'a rien dit. Mais de part le mérite du juste, Akadosh Baruch Hu leur ouvrit la bouche et ils mangèrent. Comment le Yalkut déduit cela? D'où il sait ça, le Yalkut? Est-ce du fait qu'il est dit et ils mangèrent? Quand plus tard les anges seront invités par l'autre, il est dit, Vaïf Tzorbam, il insista, Vaïf Tzorbam et autres, Vaïf Asuru Ela, Vaïf Avou El Beto, Vaïf Aslaim Mishte, Vaïf Matsotafa, Vaïf Ochelou. Là-bas aussi, il a marqué, il insista, l'autre insiste auprès d'eux, ils se tournèrent vers lui, et vinrent dans sa demeure, il prépara pour eux un banquet, il fit cuire des galettes et ils mangèrent. Là aussi, il dit, ils mangèrent. Cependant, ce même terme employé dans le cas d'Abraham n'a pas tout à fait la même signification. En effet, que dit le verset? Il prit la crème et du lait et le jeune chevreau qu'il avait préparé et les plaça devant eux. Et lui, debout au-dessus, il est en train de faire le service et ils mangèrent. Ici, il y a une interruption. Ici, il y a une interruption entre le dressage de la table et le début du repas des anges. Abraham se tient debout pour les servir au-dessus d'eux, comme si il attendait qu'ils se mettent à manger. Ainsi, le terme « debout » a un double sens. D'une part, il signifie qu'Abraham est au service de ses invités, attentif à satisfaire le moindre de leurs désirs, et d'autre part, debout, il les domine, de sorte qu'ils n'ont pas d'autre choix que de manger. Il les oblige à manger. Ils le font donc pour honorer Abraham. Toutefois, comment peuvent-ils manger? La question reste entière. Ont-ils un corps de matière vile et vulgaire comme les êtres humains? C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu leur ouvre la bouche afin de leur permettre d'accomplir un acte qui est étranger à leur nature. Revenons à l'enseignement de Rabbi Tanhum. Que dit-il? Jamais un homme ne doit changer les pratiques du lieu où il se trouve. C'est-à-dire qu'il faut adopter les habitudes et les pratiques de là où on se trouve afin de ne pas froisser ce qui nous entoure. Pour justifier cela, il rapporte deux exemples, celui de Moshe et celui des anges. L'exemple de Moshe est une preuve valable. Il se trouve dans les cieux, mais il reste un homme. Les anges qui l'entourent le savent. C'est donc pour cela qu'il s'abstient de se nourrir. Mais le deuxième exemple n'est pas de la même qualité. Les anges prennent l'apparence d'hommes. Quand ils se présentent à Abraham, a priori ce sont des hommes. Ils ne doivent surtout pas éveiller les soupçons et susciter les suspicions. C'est pour ça qu'ils sont dans l'obligation de se comporter comme des hommes. On peut alors dire qu'ils ont mangé pour ne pas être découverts. Et c'est là la preuve de Rabbi Tanhum. Cette preuve de Rabbi Tanhum n'en est pas une. C'est-à-dire que, comment tu peux dire cela? Voilà, qu'ils étaient obligés pratiquement pour ne pas être découverts. Ils n'avaient pas d'autre choix. Cependant, pour ne pas être découverts et mis à jour, il leur était suffisant de donner l'impression de manger. Alors, ils auraient pu faire comme si, semblant. Selon le Seder Olam, Seder Eliyahu Rabba, pour qui les anges ont vraiment mangé pour honorer Abraham, nous avons une preuve tangible et solide qu'il ne faut pas changer les habitudes du lieu qui nous accueille. De sorte que Rabbi Tanhum ne peut en aucun cas penser autrement que le Seder Eliyahu. Cela afin de valider son deuxième exemple. Ainsi que nous l'avons expliqué, c'est à nouveau cela Et à nouveau, cela confirme cette précision que les Tosafot donnent. Rabbi Tanhum est conforme à l'avis du Seder Olam et en désaccord avec la réponse de la Gemara. Il est fort possible aussi d'interpréter l'objection de la Gemara. Quand la Gemara elle dit que les anges ils ont mangé, vraiment tu penses que les anges ils ont mangé? Dans le sens de quel intérêt de dire qu'ils auraient fait un acte contre nature, comme celui de manger? Il est suffisant de dire qu'ils ont fait semblant de manger pour que nous puissions en déduire qu'il faut agir comme en conformité avec les us et les coutumes du lieu où on se trouve. De plus, nous pouvons dire que dans la maison d'Abraham, ils ne craignaient pas de se dévoiler et que l'on s'aperçoive qu'ils ne sont pas des hommes, car eux-mêmes vont se montrer, ils vont se dévoiler et le dire. On ne peut plus être explicite. C'est-à-dire qu'ils vont venir dire « Ayeshtacha, on va revenir l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. » Ils lui annoncent qu'ils vont avoir un enfant. De plus, on peut ajouter aussi que le malheur Gabriel, qui est là, il est là pour quoi faire? Il est là pour guérir Abraham. Il a déjà rempli sa mission, qui est... C'est quoi? Il a guéri Abraham. La preuve, c'est qu'Abraham, il était assis fatigué, et tout d'un coup, Abraham, il voit qu'il est guéri. De par le fait qu'Abraham demande à Sarah, il a retrouvé ses énergies. Et en plus, de par le fait qu'Abraham demande à Sarah de pétrir du pain, ses enfants, de pétrir du pain, le peuple d'Israël aura le mérite de recevoir le manne dans le désert. Ce pain que les anges, dont les anges se nourrissent. C'est quand la Gemara, elle dit que, Achal ish, Elechem abir, im achal ish. Ada, Abraham donne de son pain aux anges, qui donneront de leur propre pain à Israël. Alors, en conclusion, on peut dire, il est ici fait un parallèle entre le pain d'Abraham et celui des anges. Tous deux sont de la même nature et possèdent les mêmes qualités. Quand nous disons que les anges ont réellement mangé à la table d'Abraham, il faut comprendre qu'ils se sont nourris de ces aliments, comme ils se nourrissent de la manne. Ces aliments, qu'on mange, leur procure des forces, des énergies pour accomplir leur mission, le service de Dieu. C'est-à-dire que pourquoi on mange? On mange pour se nourrir, pour avoir des forces. Mimela, les anges, les chemabiri machalish, les anges dans le ciel, ils mangent le man. Le man, c'est un aliment spirituel. Donc ils se nourrissent, ils ont un corps fluide, fait de gaz ou quelque chose comme ça. Imaginons que c'est du gaz, comme du gaz, ou alors c'est de l'air. Alors le corps de l'ange, comme la Gemara elle dit dans Holin, ve kviato kiyam tarshish, c'est un pasuk dans Yov, je crois. Alors la Gemara elle a dit voilà comment quelle largeur avait l'échelle dans la vision de Yaakov. Alors elle dit kiyam tarshish. Donc ça veut dire qu'en vérité ils ont un corps pas physique, mais physique tout est relatif par rapport tout être créé à un corps et matière. Plus ou moins fluide. Alors, imaginons que le corps de l'ange, c'est comme de l'air. Alors, quand il est dans le ciel, alors il est Kayam Tarshish, comme la mer Méditerranée, 4000 km de large. Et quand il vient sur Terre, ce corps-là se comprime, on comprime l'air sur une stature d'un homme normal, 1m80, disons. Donc, automatiquement, si on comprime l'air de 4000 km dans une bouteille, on va, dans une bouteille de 1m80, on va voir, c'est comme de l'air comprimé, on va le sentir. Donc, l'air, quand il se comprime, il prend une certaine épaisseur. C'est ça, le corps de l'ange, que Abraham, il va apercevoir. Aussi, donc, où on en était? Alors, le pshat, il est, que les anges, ils ont mangé, parce qu'ils ont besoin de manger. Alors, pourquoi ils mangent? Comme ils mangent dans le ciel le mal, ils mangent chez Abraham, à sa table. Parce qu'ils se nourrissent. Parce que la madriga du ochel, de la table d'Abraham est de la même madriga que de ce que eux, ils consomment dans les cieux. Alors ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là, de sorte que sa maison est du même ordre que les cieux, sa table est du même ordre que celle des anges. Nos maîtres ajoutent qu'Abraham a même transmis aux anges les intentions qu'il convient d'avoir quand on mange. C'est ce que Rabbeinu Ari il appelle kavanot achila, les cinq kavanot qu'il y a dans la achila. C'est-à-dire quand on mange, il y a dans la bouche les 36 dents, les 32 dents, 16 en haut, 16 en bas. Donc il y a des cavanotes de mâcher, d'avaler et de sortir les énergies spirituelles, d'éliminer la tahina, ça veut dire on va essayer d'éliminer de ce qu'on mange, du pain qu'on mange, les éléments négatifs, de les écraser pour en faire jaillir les éléments, les énergies spirituelles qui sont contenues dans l'aliment et de les faire monter à leur racine. Le cerveau, c'est l'organe le plus important, celui qui va consommer le plus, et tout dépend de la kavana. Tout ça pour servir à Kadosh Baruch Hu. De sorte que cet épisode primordial, essentiel, que la Torah nous raconte, est le pilier que va saisir Moshe pour affronter les anges qui se dressent devant lui comme une muraille pour l'empêcher d'accéder à la Torah. Comme la Gemara dit dans Shabbat, Pehet 88b, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, quand Moshe Rabbeinu, il arrive en haut, alors les anges disent, qu'est-ce que tu viens faire là? Il lui dit, je viens recevoir la Torah. Et les anges disent, quoi? Quoi, la Torah? Il lui dit, un être de créé de la femme, il va recevoir la Torah. Alors, Akash Baruch dit, c'est Moshe Rabbeinu, il avait peur d'eux. D'accord? De peur que par le souffle de leur bouche, ils le brûlent. Alors, Akash Baruch lui dit, il lui dirait, attrape mon trône et envoie-leur ta réponse. Moshe n'avait pas encore atteint le lieu du trône. Donc, pourquoi il lui dit, attends, à saisir? Parce que les anges, ils l'ont empêché. Il ne pouvait en saisir que les soutiens. Le pilier. Celui qui se présente à lui est celui de Avraham. En effet, les quatre piliers qui soutiennent le trône de gloire sont les trois pères, Avraham, Isaac, et Jacob, et le quatrième, c'est David. C'est par l'action d'Avraham que Moshe réussira à recevoir la Torah. Et c'est lui qui va leur donner, grâce à Avraham, il va leur donner une réponse. Comme il est dit, tu es monté à l'état la marron, tu avais ta cheville, Béada Adam. Tu dis, toi, Moshe, tu es monté dans les cieux, dans les cimes, tu as atteint les sommets, tu t'es emparé d'un butin, la Torah, par des présents, par l'homme, par l'homme, qui bat dans Matanot, Adam, par les présents de l'homme. Quel présent de l'homme? Adam a Gadol Ba'anakim, c'est Avraham Avinu. Cet homme est Avraham, c'est lui qui a donné les moyens à Moshe de saisir ce qui n'était pas accessible. Il réussit à obtenir des présents en prime. Il s'agit de la Torah écrite, Torah orale. Cela nous le devons à Avraham. Il est à noter que tout cela ne se réalise que par le mérite de la Brit Mila qui fait pénétrer Avraham dans une nouvelle dimension, celle de la Torah. Baruch Adonai Eleolam, Amen ve Amen. L'étude que nous avons faite est consacrée à Lilou Nishmat, Rochama Desikolet Batninet, Mordechai Bar Isa, Binyamin Yaakov, בר זוהר יתרות, חלו איבד בת ג'לי, גבריאל אליהו בר פנינה, זיכרונם לחיי עולם, פור לרפואה של אמה, רפואת הנפש ובת הגוף דה לאנפון, ניסן צבי בר דבורה, דו פטי יוסף יהושע בר אסתר, דה מדם יהודי תז'ני מישל בת רחל, חיה אסתר בת ציפורה, חיים בר סימי, חיים בר שלומית, שלום בר סימי, שמעון בר ג'וזפין, אמרם בר יקוט, ברכה בת חיה פיגל, Et madame Shoshana bat Nicole Colette Lala, Anna Elna Rafanalaim, Anna Elna Rafanalaim, Akadosh Baruch Hu leur octroie la santé et la vie, joie et bonheur, satisfaction et prospérité pour tous. Tous ceux qui sont en attente de recevoir, de trouver une épouse, un époux, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, un garçon, une fille, d'avoir une meilleure parnassa, d'avoir une meilleure situation, d'être délivré de toutes sortes d'oppressions, de problèmes, de poursuites des gens qui ont des problèmes de jugement, etc. Que Dieu vous délivre chacun. Bisrout, Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, Bisrout, l'étude de ce Sefer, et que toutes les brachot que le Rav promet à ceux qui étudieront son livre, se réalise en chacun d'entre nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.